Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Misk a eu sa première fille rapidement après avoir rencontré le papa. Une grossesse surprise qui ne lui a pas fait peur et elle se sent tout de suite à l'aise dans son nouveau rôle de maman. Arrive le moment de la diversification alimentaire et Misk met ses talents de cuisinière au service du développement de sa fille en lui faisant découvrir mille et une saveurs. Elle se sépare du papa et avec son nouvel amour Lucas, il décide de quitter Paris pour s'installer dans la maison familiale dans le Perche. Cette vie au vert en famille se passe bien, Misk tombe enceinte et c'est une de ses amies d'enfance du village devenue sage-femme qui va suivre sa grossesse. L'émotion est belle, mais malheureusement lorsqu'elle ausculte Misk, elle n'entend plus le cœur du bébé et la grossesse s'arrête. Si une fausse couche est une épreuve pour celles qui la vivent, une fausse couche en milieu rural devient un véritable parcours de combattante. Et Misk nous raconte aujourd'hui tous les dysfonctionnements dans la prise en charge des femmes quand la maternité la plus proche est à des dizaines de kilomètres. Bonne écoute. Bonjour Misk.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec grand plaisir.
Alors, tu es la maman d'une petite fille. Quel âge elle a ?
Elle a 6 ans, petite Camilla.
Alors, on va revenir au tout début de ta maternité. Toi, étant plus jeune, est-ce que c'est quelque chose que t'envisageais, dont tu rêvais ? Est-ce que devenir mère était un projet en soi ou pas du tout ?
Ouais. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours habitée depuis que j'ai... je crois que j'ai commencé à avoir vraiment cette envie-là quand j'avais 11 ans à m'occuper de tout le monde, tous les petits cousins, donner le biberon, donner à manger, changer les couches. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré m'occuper des plus petits, en fait. Et vraiment bébé. Et c'est vrai que j'ai gardé ça. Alors, c'est peut-être culturel. C'est peut-être que je suis comorienne. Donc, c'est vrai qu'on nous a toujours appris à s'occuper des plus petits. Les tantines, quand elles se réunissaient, c'était plus « nous, on est ensemble et vous, les enfants, vous vous occupez de vous, soyez bienveillants ». C'est ce qu'on peut retrouver un peu dans les pays africains ou même dans plein d'autres pays où c'est vrai qu'on voit souvent des gamins de 6 ans avec les bébés dans le dos. Ouais. Ben, c'est un peu ça. J'ai grandi ici, mais j'ai un peu vécu ça comme au pays, en fait. Voilà, donc ça a toujours été un peu dans mon ADN, on va dire.
Et alors, tu as rencontré le papa de ta fille. À quel moment le sujet de la maternité, de la parentalité est venu au sein du couple ?
Alors, j'aime pas trop parler d'accident.
Surprise.
Mais ça a été une belle surprise, oui. Alors, en plus, pour l'histoire, pour être hyper transparente, ça faisait 8 mois qu'on était ensemble. Donc, c'était pas forcément le sujet. On était plutôt dans la fête que dans la parentalité.
T'avais quel âge, toi ?
Alors, moi, j'avais 32 ans. Mmh. Et c'est vrai que c'était, moi, une vraie envie. Hein. Ça, c'était un peu, moi, depuis mes 30 ans, ça bouillonnait vraiment. C'était physique. Malheureusement, j'avais avorté avant. Et arrivé à 30 ans, j'ai un peu, comme beaucoup de femmes, tu fais un peu une rétrospective et tu te dis, j'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais ? Je travaille, ok. Mais je voyais mes copines qui commençaient à tomber enceintes, se poser des questions. J'ai rencontré le papa de ma fille par hasard. Voilà, c'était un beau début d'histoire, hein, vraiment magique. Et je suis partie aux Comores, c'est une histoire un peu folle. Je suis partie aux Comores un été, donc l'été de notre début de relation. Et je me suis fait soigner pour des soi-disant kystes aux ovaires par une vieille maman, vieille médecin traditionnel, qui m'a fait prendre des plantes et qui activait la fertilité. Ah. Je m'y attendais pas, je n'étais pas au courant. Et donc, je suis rentrée et ça a été direct. Je suis tombée enceinte. Et en fait, quand je n'en ai pas à ma maman, elle me dit « Oh, mais j'ai oublié de te dire
!»
Oups. Oups. Mais finalement, voilà, il n'y a pas de hasard. Et j'ai une fille merveilleuse.
Et alors, comment tu as réagi? Comment tu l'as découvert, d'ailleurs, que tu étais enceinte?
Je l'ai su, ça faisait même pas 2 semaines que j'étais enceinte. Je le sentais. Mm. Je pense qu'on a un instinct. Nous, les femmes, on a cet instinct-là où on sait qu'il se passe quelque chose dans son corps. Donc, je sentais. Je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai senti. Je n'avais pas de retard de règles. Hein. Et j'ai acheté un test de grossesse qui était positif. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, enfin, t'es là.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était un grand moment. J'avais même pas, dans ma tête, c'était pas possible d'avorter. Alors que ça faisait que 8 mois qu'on était ensemble, c'était impossible. Donc voilà, j'étais hyper heureuse. Lui était heureux aussi. Et du coup, on s'est dit, on garde.
Alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Merveilleuse. J'avoue que j'avais vraiment des retours pas super cool. Les copines, il leur est arrivé des trucs incroyables à chaque fois, des rétentions d'eau, des rester à la maison. Puis ma maman a vécu des grossesses en plus, elle, assez difficiles. Donc, j'avais pas vraiment une image de la maternité qui était magique, la grossesse qui était magique. Et j'ai voulu m'écarter de ça, justement. Donc, j'ai pris le parti de me faire accompagner par des ostéos. Enfin, j'avais un super ostéo qui est un ami d'enfance. Je travaillais beaucoup en énergétique, donc j'ai travaillé beaucoup avec mon énergéticienne. Je suis allée beaucoup nager. J'ai vraiment pris ma grossesse comme un moment joyeux. J'ai voulu me connecter à mon bébé, j'ai voulu laisser de l'espace avec l'ostéo. J'ai pas eu de douleur dès que j'avais des moments de doute. Et ben, voilà, je me suis attachée à ces personnes-là et j'ai voulu surtout trouver une sage-femme assez indépendante. J'ai pas voulu être suivie. Alors, j'étais inscrite à Trousseau, mais j'ai pas voulu suivre tout leur truc. J'ai pas voulu avoir trop de monde avec moi. Mmh. Et j'ai essayé de chercher la meilleure sage-femme très ouverte. Donc, je suis tombée sur une sage-femme incroyable de 60 ans qui était partie partout, accoucher des femmes partout dans le monde. Qui avait une vraie vision de la maternité dans sa globalité, c'est-à-dire dans toutes ses cultures, et donc qui était très ouverte et qui m'a beaucoup accompagnée. C'est vrai qu'elle consultait chez elle, il y avait un cadre voilà, hyper agréable où quand tu arrivais chez elle, tu avais le bonjour sous plein de langues, toutes les religions étaient les bienvenues. C'était magique, donc j'ai vécu une grossesse magique, vraiment. Je suis sortie, j'ai vu mes potes, je suis allée en festival. 8 mois de grossesse, j'étais au concert de Rhône, au Trianon, j'étais hyper fière. J'étais tout devant avec les gros boum-boum. J'ai mis de la musique à Camilla, voilà, je la calmais. J'ai fait de la pseudomie pour que le papa soit vraiment impliqué dans la grossesse. Ils communiquaient beaucoup avec elle le soir quand je dormais. C'était leur moment à eux. Enfin, voilà, j'ai vraiment... pour moi, il n'y avait pas de contrainte. Voilà, j'ai pris 18 kilos, mais c'était cool. Hein. 18 kilos de bonheur.
Mais tu avais un projet de naissance particulier ou
Oui, je l'ai écrit.
D'accord.
Ah ouais. Justement, c'était cette super sage-femme... D'ailleurs, sage-femme Grainer, je la recommande vivement. Ici, vraiment, oui, elle m'a recommandé de le faire, justement pour pas qu'on m'impose des choses. Donc, j'avais effectivement demandé à ce qu'il n'y ait que 2 personnes dans le bloc, j'ai mis de la musique, j'avais ma playlist, j'avais mon ballon, j'avais demandé à ce que le bassin, s'il était libre, de pouvoir me baigner. J'avais demandé à ce qu'on me laisse mon téléphone pour que mon papa puisse faire l'accueil de la petite comme au pays, avec des petites phrases c'est un peu comme un imam en fait. Hein. Et voilà, donc on était, j'avais refusé les étudiants parce que je voulais pas que mon corps soit une expertise. Et c'est vrai que ça a été agréable. J'avais ma petite playlist, j'ai accouché sur Jeanne Haddad, j'avais mon petit ballon, je voulais pas avoir de péridurale tout de suite. Je voulais essayer de tenir jusqu'au bout. Bon, au final, hein, je l'ai demandé, mais trop tard.
Ah, donc tu l'as pas eu?
Si, je l'ai eu, mais quand je dis trop tard, c'est que je l'ai eu et le col s'est ouvert, on va dire 10 minutes après, quoi.
Oui.
Ouais. Donc j'aurais pu très bien le faire sans. Mais bon, je regrette pas. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, non, non, j'ai un accouchement qui a été magique en plus.
Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ta petite chérie?
Je croyais pas trop. Hein. Alors, en plus, j'ai accouché en 15 minutes. Je lui ai dit, sors Camilla, c'est le moment. Parce que là, maman, elle va pas tenir, elle va pas se pousser pendant 10 ans. Et je lui ai vraiment dit. Hein. Elle est sortie. Et là, quand je l'ai regardée, je lui ai dit, oh, t'as le même trou que maman. Parce qu'en fait, j'ai un trou au niveau de l'oreille. J'ai un trou à l'oreille au-dessus de l'oreille à gauche et elle est née avec le même trou à droite. On avait les mêmes points de beauté. En fait, j'ai juste regardé ces choses et je lui ai dit, mais t'es ma fille. Et je me suis dit, en fait, on va vivre un truc incroyable. J'ai pleuré et j'ai appelé mon papa. Mon papa l'a accueilli et après, j'ai allaité direct. Moi, je lui ai mis le sein, je l'ai mis au sein tout de suite. Mais c'est surtout que j'ai pris tout ce temps-là aussi pour retarder... la petite coupe-coupe du cordon ombilical. Elle m'avait dit, fais bien, attends, accueille-la vraiment, mais qu'on ne te coupe pas directement. Et c'est vrai que, ouais, non, moi, ça a été magique. Hein. Ça a été magique. En plus, Camilla, elle n'a pas pleuré, elle a chanté en sortant de mon ventre. Il y a des bébés qui font, ouah, ouah. Ben, moi, c'était,
C'était les concerts qui étaient restés.
Ouais, je crois. La musique classique, tout ce que je lui ai mis dans le ventre pour qu'elle soit bien.
Trop chouette.
Ouais, c'était trop bien.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison?
Ah oui, aucun souci. Alors, moi, j'ai détesté, comme pour tout, hein, j'ai pas voulu suivre tout ce qu'on me disait et je l'ai vécu comme j'avais envie de le vivre. Donc ouais, non, moi j'étais très bien. J'ai pleuré, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai assumé, j'ai expliqué à ma fille, je lui parlais. Maman, là, ça va pas. Maman, là, elle va bien. Maman, elle pleure, mais c'est comme ça, c'est la vie, ma fille. En fait, toi, tu pleures aussi. Je te comprends pas, essayons de se comprendre. C'est vrai que c'est ma sage-femme qui me disait vraiment de ne pas hésiter à lui parler. Et c'est vrai que je lui ai beaucoup parlé. Déjà dans mon ventre, j'ai accueilli comme au pays, c'est-à-dire avec papa. Maman était là aussi, en France. Donc, c'est vrai que elle a fait tout le process comme aux Comores. On est sortis de la maternité avec nos tenues traditionnelles. J'ai accouché aussi avec la tenue tradie.
Ah oui?
Ouais, ouais, j'avais mon boubou comme rien. Et c'est vrai que non, j'ai assumé mes pleurs, j'ai assumé mes rires, j'ai assumé ma joie avec ma fille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est aussi autant complices avec Camilla. Je ne lui ai jamais rien caché, en fait. Je ne lui cacherai rien. Il n'y a pas de honte. Et il faut qu'il le sache. Et c'est vrai que quand elle a commencé à un peu trop pleurer les nuits, et pas faire ses nuits, au bout de 4 semaines, je suis allée voir ma sage-femme. Je me suis dit, oh là là, ça va être chaud. Il faut que je dorme. Et elle m'a dit, mais dis-lui. Et en fait, j'ai parlé à ma fille. Et vraiment, sans mentir, le lendemain, la fille s'est nuit.
C'est donc ça, la recette miracle.
Moi, j'ai beaucoup parlé. Hein. En fait, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent beaucoup plus qu'on ne pense. Et c'est vrai que non, moi, j'ai complètement assumé. Hein. Donc après, je l'ai beaucoup massé aussi. C'est vrai que voilà, en fait, je fais à ma fille ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc, je la masse beaucoup. Même encore maintenant, ça fait 6 ans que je la masse. Et je l'ai beaucoup massé, ouais, pour la détendre et je lui ai beaucoup parlé et j'ai assumé d'être une femme avec les hormones qui bougent, qui ne comprend pas, mais en étant bienveillante avec elle. Je pense qu'on fait déjà beaucoup. Ils savent, hein. Ils sont dans notre ventre pendant 9 mois. On pousse aussi, hein. À un moment, ils sont reliés à nous. Donc non, moi, ça a été magique, le retour à la maison. On allait nager, je l'emmenais avec moi partout. Elle avait 2 semaines, on était en festival à Villette Sonic, en extérieur, avec son petit casque. je l'aide avec mes potes, j'ai vécu vraiment. Je me suis pas posé de questions et c'est vrai qu'on écoute trop. Il y a trop de contraintes. On nous met trop de contraintes. On oublie que ailleurs on n'a pas autant de contraintes et que tout va bien. Donc moi je recommande souvent à mes copines de s'écouter. Si elles ont envie de laisser garder leur bébé pour prendre une semaine, faites-le et n'ayez pas honte en fait. Et si on vous dit que c'est pas bien, ou si on vous dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire et que t'es pas une maman bienveillante, on est les seuls à savoir en fait ce qui est bon pour nous et pour notre bébé.
Alors, comment t'en es venue à écrire le livre sur la diversification?
Eh bien, petite dédicace à Rosemary. J'ai une super éditrice qui m'a contactée. Alors, j'ai fait la diversification de ma fille comme j'avais envie de la faire, c'est-à-dire de partager. Et c'est vrai que j'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'étais complètement décomplexée. Moi, j'ai pas écouté du tout toutes les recommandations, partant du principe que ma famille aux Comores n'a pas autant de contraintes et que tout va bien. Donc, je me suis dit, pourquoi, en fait, on ne peut pas commencer par les fruits exotiques? Pourquoi il faut faire comme si? Pourquoi on doit faire des purées de carottes? Carottes, sans goût, c'est dégueu. Moi, ça ne me parle pas du tout. Et j'avais envie de partager ce moment avec elle. Donc, j'ai fait à Camilla ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Donc, on a partagé des brunchs, on a mangé. Les purées de carottes, c'était avec du goût. Il y avait de l'oignon, de l'ail, du thym, du laurier. Elle a mangé des dalles très tôt, des poulets au coco. Elle est partie purée de banane plantain avec la crème de coco. Enfin bon. Et puis, finalement, je me suis dit, c'était cool. Elle était à la crèche rue de Crimée dans le 19e à Paris. Et c'est vrai qu'on était beaucoup de cultures différentes et que je me disais, quand je les voyais, tous les copains, je me dis, personne, on s'en parle pas, c'est sujet tabou. Et j'ai été complètement décomplexée en me disant, ma fille, je vais t'offrir tout ce que tes copains, ils mangent à la maison. Donc, des riz cantonais, des tagines, des couscous, c'était cool. Et donc, on s'est éclaté ensemble, on mangeait ensemble. Et donc, quand on m'a contactée pour faire un livre sur la diversification alimentaire, je leur ai dit « Ok, mais je raconte cette histoire-là. Enfin, je ne peux pas inventer. Je ne vais pas inventer des recettes. Je vais pas. Non, on va partir de ce que j'ai fait pour Camilla parce que c'était magique et aujourd'hui, elle mange de tout. Elle est ouverte à plein de pays. À 6 ans, elle sait qu'elle mange comme son copain marocain. Et quand elle va manger des keftas, elle leur dit « Hier, j'ai mangé des keftas avec le couscous à ses copains. » Et puis, elle différencie bien. C'est un peu une ouverture au monde aussi. Mmh. Et que je trouve intéressant d'autoriser les parents à se diversifier eux-mêmes aussi. Parce que finalement, quand j'ai voulu intégrer la cacahuète, j'ai fait un mafé. Mais j'avais jamais fait de mafé de ma vie. Voilà, ça m'a permis aussi à moi de découvrir des plats de pays que j'avais pas goûté, que j'avais jamais goûté. Et c'est aussi ça, voilà. Donc c'est quand on m'a proposé ce livre, je me suis dit je vais assumer vraiment devant plus de monde du coup ce que j'ai fait. Et je suis contente aujourd'hui de voir que ça plaît et que ça a ouvert les esprits de beaucoup de parents. Et 2 bébés, du coup, de fait.
Et donc, un petit peu plus tard, tu te sépares du papa de ta fille.
Oui.
Tu refais ta vie avec ton chéri actuel.
Oui.
Et il n'y a pas longtemps, donc, tu es tombée enceinte. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu comment est arrivé le sujet, cette fois-ci, entre vous, de devenir parent
Alors, avec Lucas, c'est une histoire donc, de 4 ans et demi, 5 ans bientôt. C'était une histoire cachée hein, qu'on a après complètement assumée. Et c'est vrai qu'on a une complicité incroyable. Il a assumé pleinement son rôle de beau-père. Il avait 23 ans à l'époque. Hein, donc, et on a 10 ans d'écart. C'est hyper important parce que pour moi de le dire parce que il a été papa très jeune. Parce que, mine de rien, c'était le quotidien d'un bébé. Elle avait à peine 2 ans, Camilla. Donc, avec toutes les fièvres et tout ça. Donc, c'est vrai que je l'ai vu faire. Je l'ai vu être papa. Et j'ai vu tout ce qu'il faisait avec elle. Il lui a fait découvrir énormément de choses. Il lui a appris beaucoup de choses. Ils ont une complicité qui est folle. Et puis, Camilla, elle est très, très connectée. Elle laisse personne vraiment rentrer dans sa vie tout de suite. Et c'est vrai que là, c'était en plus période de syndrome d'Oedipe. Hein, donc, et quand je la voyais aussi ouverte avec Lucas, d'être hyper bien, limite de me demander de partir de la maison pour rester seule avec lui, à un moment, tu dis, bon, ça va. En tout cas, il peut tenir ce rôle-là. Je voyais assumer financièrement des choses qui ne lui appartenaient pas normalement. Ça fait à peu près un an et demi qu'on s'en était parlé, mais sans plus. Et puis, Camilla a commencé à nous lancer des petits pics, à mettre ses doudous dans son ventre, à nous regarder, à nous dire « Bon, moi je veux un petit frère, une petite sœur, et puis on serait bien tout ensemble avec une vraie famille grande. » Et c'est vrai que c'était plein de petits pics, et puis on s'est dit « C'est vrai qu'on est bien tous les deux, et qu'effectivement, ça serait une suite logique. » Donc, on a commencé à en parler pendant le confinement, mais on est en région parisienne. On ne se sentait pas financièrement d'assumer avec la perte de nos activités, étant tous les deux dans le spectacle. Moi, dans la restauration, les catering pour les artistes, les repas des artistes. Lui, en tant qu'ingénieur du son, c'est vrai qu'à nous deux, on perdait notre activité et que ça nous a permis de vivre aussi un an et demi l'un sur l'autre. D'assumer pleinement de quitter la région pour retourner dans mon perche natal, dans la maison où j'ai grandi, la maison où on venait presque souvent, enfin presque tous les week-ends, et que là, on s'est dit que c'était un cadre magique pour le faire, parce qu'on est sur une terre que je connais, on est dans la maison familiale. C'était beau dans tout, en fait. Camilla, donc on s'est dit, bon, on s'y met, ça va être cool. Et moi, j'ai une polyarthrite rhumatoïde qui a été déclarée il y a 3 ans. Et on m'avait mis un implant parce que j'étais censée suivre un traitement si je tombais enceinte, faisait que le fœtus allait être handicapé. Enfin, le bébé allait être handicapé. Le méthotrexate. Sauf que j'ai fait le rebelle que je suis. J'ai fait 5 mois de traitement et j'ai arrêté. Donc, je me soigne que via l'alimentation et les méditations et tout ça. Ça fait 3 ans que je ne prends pas de médicaments, mais j'avais un implant parce que, justement, ils avaient peur que je tombe enceinte. Et donc, j'ai ma sage-femme, qui est une amie d'enfance, que j'ai retrouvée du coup en revenant ici, dans le Perche, a pris le parti de me retirer l'implant en me disant, de toute façon, ça fait assez longtemps que tu as arrêter les médicaments. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux très bien vivre ta grossesse, mais c'est après. Tu peux être handicapé. Ou la maladie peut totalement disparaître. Donc nous, on a accepté, on a assumé le fait d'avoir un enfant, mais que je sois handicapée après.
Oui.
Et donc du coup, c'est vrai que on s'était dit, bon, allez, on s'y met. Bon, voilà, on a en assumant pleinement, on a une vie sexuelle très épanouie. Et là, on découvre que je tombe enceinte. Donc, grande joie, grand moment. Les pleurs, il est en tournée en plus. Donc, je fais le test et là, je pleure. J'étais chez mon frère. Il y avait ma fille, donc qui était tellement heureuse. Disant ça y est maman, ça y est, le petit frère, parce qu'elle était persuadée que c'était un garçon, moi aussi. Et puis on attend, si on n'en parle pas, à part à la famille, quelques amis très proches, en plus de ça, en se disant, on ne sait jamais. Il faudra du soutien, si.
Ah oui.
Et donc, on va voir, j'appelle ma super sa copine, amie d'enfance, sage-femme. Je lui dis, ça y est, Marion, c'est cool, on va pouvoir commencer. Et là, j'appelle mon énergéticienne, ça y est, c'est bon, on est bon, l'ostéopathe, c'est parti. Mon ami naturo, on y va. Et là, je me dis, je rassemble toute cette belle team et on va se faire une grossesse magique qui va être encore mieux que la première parce qu'on va tout bien faire pour que toutes les énergies, tout soit bien. Et donc, on y va voir ma super sage-femme, on fait cette première échographie. Oui, oui, il est bien là, mais trop petit pour qu'on dise des petites lentilles corail. Donc là, tout de suite, on ne peut pas vraiment dater, sachant que moi et mes règles, c'est une cata, je ne comprends rien. Donc, elle me dit, on va reprendre rendez-vous pour dater, 21 juin. Donc, on se dit, oh, génial, tous les deux dans la musique et tout, c'est un signe. Jour de la fête de la musique, solstice d'été, génial. Donc, on part, trop content, gros son dans la voiture. On arrive et alors moi je suis très sensible à tout ce qui se passe hein, tout le temps, pour moi il n'y a pas de hasard et il s'avère qu'on avait donc une heure de rendez-vous avec elle et pour trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, on parle de tous les faits divers qu'il y a dans le milieu rural, tout ce qu'elles vivent, ces sages-femmes en milieu rural. Et donc, de toutes ces femmes qui abandonnent leur bébé par manque de structure d'accompagnement, toutes ces fausses couches qui y arrivent et tout. Mais vraiment, lui est totalement décontracté en se disant, nous, c'est cool. Et donc là, je dis, bon, allez, on y va, on va regarder combien de temps et tout. Donc, trop contente. Et là, elle commence et là, elle me dit, tiens, il a bien grandi. Et là, elle me fait, par contre, Misque, j'entends plus le rythme cardiaque. Et là, je lui dis, mais non, je lui dis, attends, je vais chercher, mais là, Misque, là, je n'entends pas. Puis là, je vois ses yeux remplis de larmes, parce que c'est tout de même une amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on est petite, hein, on a 38 ans toutes les deux, ça fait peut-être 28 ans qu'on se connaît. Donc, et on ne s'était pas revus depuis plus de 15 ans, donc c'était quand même pas rien. Nos retrouvailles, c'était vraiment beau de se retrouver pour un projet comme celui-ci. Et donc là, première chose qu'on fait, nous, les femmes, c'est qu'on s'excuse. Moi, je me suis excusée. J'ai regardé mon mari et je me suis excusée, en fait. Je pleurais, je n'y croyais pas, en fait, c'était fou. Et là, lui, du haut de ses 27 ans, se lève et me prend le visage en me disant « Mais ce n'est pas de ta faute, dis-le. Ce n'est pas de ta faute. » Et il a été d'une force. Moi, je n'entendais plus rien, elle nous a laissés tous les deux et c'était très dur pour elle parce qu'il a fallu qu'elle reste très professionnelle, mais il y avait aussi l'affect. Mm-hmm. Je commence à avoir les larmes parce que je revois son visage à Marion et c'est vrai que pour moi c'était aussi c'était dur de la voir comme ça, au-delà de moi. Hein, c'était j'avais mal en fait. Et elle me dit, bon, écoute, le process d'après, c'est il va falloir que tu ailles à Chartres pour confirmer cette grossesse arrêtée. Donc, pour rappel, j'habite donc Nogent-le-Rotrou. Ma sage-femme que j'aurais pu, il y a un centre périnatal ici avec deux sages-femmes. Il y en a deux autres qui sont en freelance, mais j'ai pris le parti d'être suivie par mon amie d'enfance parce que je voulais, c'était moi mon projet de grossesse. Et donc, c'est à 15 minutes de chez moi. Mais là, après, comme il n'y a pas de maternité ici, et bien, il n'y a pas de gynécologue, il faut aller à 50 minutes de route. Donc, là, tu apprends que tu as le rythme cardiaque du fœtus s'est arrêté. Et en plus de ça, dans la même journée, tu dois aller aux urgences gynéco de Chartres, donc à 50 minutes de chez moi. Donc là, tu te dis, je ne vais pas y aller maintenant, en fait. Ce n'est pas possible, pas tout de suite. Là, en fait, là, je... Non. Donc là, tu pars, tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive, en fait. Tu te dis que ce n'est pas possible. J'ai déjà eu une grossesse, j'ai 38 ans. Enfin, c'est vraiment tout est remis en question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te fais ça à toi qui a 27 ans, qui n'a pas d'enfant, qui vit hein, en tant que beau-père. Hein, tu as un beau-père incroyable et tu rêvais de ce moment-là. Et là, tout capote. Qu'on s'en veut aussi. Hein, aussi du coup, tu te remets en question. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, on est rentré à la maison et là, je me suis posée. Lui devait partir. Du coup, il a fait décaler son départ parce qu'il était en tournée avec Iseult. Et donc là, on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est là où j'insiste sur la force de l'homme qui accompagne la femme quand il lui arrive ça. Parce que c'est vraiment super important. Sans lui, je pense que vraiment, je me serais effondrée. Donc, c'est lui qui a conduit derrière. On est parti 2 heures après, faire ses 50 minutes de trajet. Et après, attendre 2h40 aux urgences pour être reçu et qu'on nous demande, sachant que le document de ma sage-femme était très lisible, hein, c'est grossesse arrêtée, à 8 semaines, c'était écrit. Et on te demande, alors qu'est-ce qui vous amène? Ça s'est passé comment? Et là, à un moment, tu fais, balisé, en fait, je suis désolée, je peux pas, là, c'est too much pour moi. Donc, faire 50 minutes de plus pour confirmer effectivement que le cœur du fœtus s'est arrêté. Retourner, donc pas tant de 2h40, une demi-heure de consultation. Repartir, donc encore 50 minutes. Avec 2 médicaments, une prescription de Doliprane et Spasfon, sans m'expliquer les possibles complications qui pouvaient arriver. J'ai la chance d'avoir une super sage-femme encore, qui est une amie d'enfance, qui était sur son téléphone et qui m'a donné toutes des indications, des possibles hémorragies et tout ça. Et là, tu te dis, d'accord, donc en fait, je rentre chez moi avec ces 2 médicaments et potentiellement, ça peut très bien se passer, comme je peux faire une hémorragie ou je vais devoir, de fait, encore repartir à Chartres si je fais une hémorragie. Et donc, j'ai pris ces 2 médicaments d'un coup. Donc, je ne les ai pas pris le jour même parce que mon mec partait le lendemain. Donc, j'ai attendu qu'il en revienne pour les prendre. Et ça, on m'a fait toute une crise à Chartres, d'ailleurs, parce que c'était pas bien. Sauf que je leur ai dit, je ne veux pas être seule pendant 2 jours. Donc, non. Et du coup, j'ai pris des médocs. J'ai eu très, 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 très mal au ventre. Ça n'a pas agi au bon endroit. Donc, diarrhée, la totale. Puis moi, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai évacué comme ça. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, après, on te dit écho de contrôle. 10 jours après. Bah, tu vis 10 jours avec ce sentiment de, bah, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. J'ai mal. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, en fait. Moi, j'ai la chance et la malchance. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, je suis en freelance et dans un secteur qui est à l'arrêt, donc chez moi, avec mon mec en tournée, donc à vivre ça seul. Donc, tu essayes de te dire que bah, tu vas parler pour toutes ces femmes qui n'ont pas la parole. Tu imagines comment sont toutes ces femmes, parce que moi, j'ai une chance, c'est que mon énergéticienne était là, travaillait à distance sur moi. J'avais ma sage-femme qui prenait beaucoup de nouvelles, mon mec qui m'appelait tout le temps. Dès qu'il avait des pauses, qui m'appelait. Donc, j'avais mes parents, mes frères qui m'appelaient tout le temps. Donc, c'est vrai que j'étais seule, mais pas vraiment. Et déjà, ça a été dur. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas de famille ou qui le cachent. Voilà. Donc, il n'y a pas de structure pour accompagner tout ça. Et c'est vrai qu'après les 10 jours, donc je vais chez ma sage-femme, qui, elle, était assez inquiète parce que je n'avais pas eu du tout les effets qui étaient prévus. Et je n'avais pas saigné. Donc, elle me dit, écoute, j'ai un doute quand même. Je lui dis, oui, mais je suis prête à l'entendre. Et en fait, on fait la déco. Et en fait, le bébé était toujours là, très bien accroché. Et là, elle me dit, Miss, que je suis désolée de te dire, mais je lui dis, oui, il faut que je retourne encore à Chartres. Elle me dit, ouais. Et là, je la regarde, je lui fais, mais en fait, ton diagnostic n'est pas reconnu, alors que c'est toi qui es proche de nous, quand on est en milieu rural tout de même. C'est les sages-femmes, hein. Ils sont bien contents de les voir, qu'elles fassent le suivi, mais dès qu'il y a des pathologies ou des complications, leur diagnostic n'est plus pris en compte, en fait. Ce qui doit être encore validé par l'autre. Et là, je lui dis, mais en fait, à quel moment t'es reconnue, en fait? Je comprends pas. Elle me dit, bah ouais, c'est notre quotidien, ça. Et je gueule aussi pour ça. C'est pas normal. Parce qu'heureusement qu'elles sont là, en fait. C'est ça. Et du coup, j'étais seule. Donc, il a fallu que j'aille à Chartres, seule, avec ce bébé. Et puis, se rendre compte aussi que pendant 10 jours, t'avais encore un bébé mort dans le corps. En tant que femme, c'est pas rien. C'est vrai que je le sentais. De toute façon, j'avais un gros ventre. Je mangeais beaucoup. J'avais vraiment tous ces symptômes. Et je me disais que bon, c'est que je n'ai pas vraiment accepté. Donc, je suis allée à la Chartres, qui m'ont confirmé.
Et comment tu faisais pour faire garder ta fille ?
Eh bien, elle était chez son papa en vacances. Ah oui. Encore une fois, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est qu'elle était à Montreuil chez son papa. Mais après, encore une fois, je pense que Camilla m'aura accompagnée. Vraiment, je n'aurais pas caché ça à ma fille. J'aurais préféré qu'elle soit avec moi. Elle aurait même, elle, préféré être près de sa maman. Je pense que si elle savait tout ce qui m'est arrivé là, je vais lui dire. Hein. Je pense qu'elle va me dire encore, maman, t'es une femme forte, et qu'elle me dit tout le temps. Et du coup, j'ai fait ce petit trajet. Et c'était marrant parce que justement, j'ai assumé pleinement d'en parler sur les réseaux. Je faisais des petites vidéos pour raconter un petit peu mon petit trajet, tout ça. Parce que déjà, c'est à notre charge, hein, faut le dire. On paye de notre poche, ce qui n'est pas normal. Et là, tu te demandes en fait comment elles font toutes ces femmes qui n'ont pas les moyens de mettre de l'essence, qui n'ont pas les moyens de payer un billet de train, qui n'ont pas la gare à côté de chez eux. Parce qu'ici, on a plein de petites villes, hein, petites communes. De 3 000 habitants, 2 000 habitants, elles n'ont pas de train. Les ambulances, te déposent certes, mais elles n'attendent pas que tu fasses tous tes examens, elles te laissent au plan. Les pompiers, ce n'est pas une urgence. Voilà, donc tu es toute seule. Il y en a qui c'est encore plus grave, mais voilà, donc là, je me fais mon petit trajet toute seule. On me confirme qu'effectivement, il est bien là. Et donc, malheureusement, vous allez devoir reprendre les médicaments. Et là, je suis pas non. Ça ne va pas marcher, je ne vois pas que ça n'a pas marché une première fois. Oui, mais là, en fait, le protocole veut qu'il faut réessayer. Et puis, c'est comme ça, en fait. Non. Donc là, j'ai insisté. Je fais, non, en fait, là, je ne vais pas reprendre. En fait, ça m'a juste défoncé l'estomac. J'ai eu une chiasse d'enfer. C'est tout ce que ça va me refaire, en fait. Je ne vois pas. Ça n'a pas agi au bon endroit. Donc, non. Mais madame, je ne sais pas. Donc, elle appelle sa supérieure. Qui la supérieure? Elle dit, non. Là, vous lui redonnez deux. Et puis elle dit, ouais, mais là vraiment, la patiente, elle veut vraiment pas. Et donc, il s'avère que j'ai eu une vraie complicité avec cette femme qui a encore insisté auprès de sa supérieure. Et qui, la supérieure, visiblement, en a eu marre et a dit, laissez-moi le dossier, je le présente demain en commission. Parce que ça passe en commission, en plus. C'est génial. Ça passe en commission. Et donc, on passe en commission le lendemain. Donc, je rentre chez moi. Donc, très tard, hein, parce que j'y suis allée très tard, parce que faut digérer toutes ces étapes, hein, quand même, hein, c'est tout de même beaucoup. Donc je pars, je rentre chez moi, et le lendemain, j'avais un tournage en plus, donc voilà, il faut aussi se dire que y en a qui travaillent le lendemain et qui doivent sourire. Donc, moi, j'avais un super tournage pour une marque en plus, donc il fallait que je sourie, il fallait que je sois créative, ce que j'ai réussi à faire, hein, c'était... Et je reçois un appel juste avant de tourner. Donc, oui, madame, vous avez votre aspiration de programmer jeudi 15. Et donc, tu fais super. Mais là, il va falloir faire le test, avec tout le protocole, en plus sanitaire. Vas-y. Et puis, la prise de sang le lundi, parce que le 14 juillet, c'est fermé. Et tout. Ouais, super, ok. D'accord. Et donc là, j'appelle mon énergéticienne qui là, me dit, écoute, Miss, que... On me dit, tes guides me disent, j'ai un message à te passer, il faut que tu écrives à Nadji, en fait, parce qu'il s'appelait Nadji, je lui ai donné son prénom. Hein. Il faut que tu écrives à Nadji. C'est toi, en fait, qui n'as pas accepté qu'il parte, donc il faut que tu lui écrives, et tu écris tout ce que tu as à lui dire. Et... Donc le samedi, je lui écris. Le dimanche, je vais marcher dans la forêt. Ne me demandez pas pourquoi, il fallait que je marche, j'aille dans la forêt. Et. De la nuit de lundi, de dimanche à lundi, à 5 heures du matin lundi, j'ai évacué 3 semaines après la prise de médicaments. Et donc là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et t'es seule.
Mmh.
Donc t'appelles ta sage-femme. Donc tu vas la voir le lendemain parce que jour J, tu dis t'attends que ça se libère quand même, tu vois, que ça sorte. Et qui confirme qu'effectivement, Nadji est bien partie. Mais Miss, qu'il faut quand même que tu retournes à Chartres. Parce que moi, j'ai encore une fois, j'aimerais que ça soit terminé là, mais non. Le protocole veut que. Et puis en plus, comme ils t'ont programmé jeudi, ça risque d'être pas cool. Donc je préfère pas que tu aies encore des infos qui vont fatiguer. Donc tu vas devoir y aller, malheureusement. Donc j'y vais. Et je me suis tout de même fait. Ah oui, non, parce que du coup, ce jour-là, j'ai appelé la. Je les ai appelés là-bas, là, aux urgences. Enfin, dans l'hôpital, en fait, qui m'avait programmé l'opération, m'appelle et me dit, mais donc, c'est pour qu'on discute pour jeudi, voir si vous avez bien fait vos examens, tout ça. Je fais, bah, écoutez, là, j'ai évacué. Comment ça, vous avez évacué? Ben oui, oui, j'ai évacué. Je suis sûre, c'est validé. Ben, vous allez venir maintenant? Ben non, madame. Mais si. Eh ben non, madame, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais madame, vous êtes inconsciente. Mais madame, je laisse déjà que ça se passe. Ça, j'ai laissé que ça sorte tout bien. Et puis madame, moi, là, il pleut comme pas possible. Je suis toute seule en voiture. J'ai 50 minutes de trajet. Donc non, madame, là, ça va, ça se passe pas comme ça. Non, 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 non. Déjà, j'ai déjà douloureux pour moi. Donc on va se calmer. Et puis on essaie de se détendre. Et de parler mieux aux gens, parce que, en fait, là, vous parlez à une femme qui vient juste perdre son bébé. Ok, excusez-moi, madame, c'est vrai. Ben, venez quand vous pouvez, puis tenez-nous au courant. Alors là, la médane, elle s'est calmée. Donc, en fait, c'était tellement une histoire de 3 semaines. Avec, du coup, en tout, ben, 66 km aller. Donc, faites vite le calcul, hein, 3 fois. Donc, 4 km fois 3.
Non, on est à 500 kilomètres.
Ouais. Donc, là, tu te dis, en fait, que... Alors, je peux tout entendre. Je peux entendre que des airs médicaux. Je peux tout entendre. Mais je ne peux pas entendre le fait qu'il n'y ait aucune structure de suivi. Je ne peux pas entendre que les sages-femmes, elles n'aient pas cette position que eux ont à 50 minutes de plus. Je ne peux pas, en fait... Il n'y a pas de maternité, bah, il faut créer des espaces, en fait, pour pouvoir avoir un suivi. Il faut aussi informer. Et que j'en ai marre de lire des faits divers de femmes qui accouchent seules, bah, par manque de structure, des jeunes qui abandonnent leur bébé dans des poubelles. C'est des faits divers qui existent beaucoup au milieu rural, hein, tout de même. Ici, moi, j'en ai vu plein, plein d'articles. J'invente strictement rien et que je trouve pas ça normal, en fait. Je trouve pas normal qu'on doive payer pour ça. Je trouve pas normal qu'on ne mette pas à disposition des femmes une possibilité de taxi, je sais pas, toutes ces femmes qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui n'ont pas les moyens financiers, parce que moi j'étais dans une galère financière pas possible. J'ai la chance d'avoir un entourage qui ont pu m'aider pour mettre l'essence tout bêtement. C'est juste pas normal. Et que finalement, je me suis rendu compte qu'en 20 ans, les choses n'ont pas changé ici. J'avais une amie, moi, à l'époque, à 18 ans, qui avait fait un déni de grossesse et qui pensait avoir fait une occlusion intestinale. Elle allait aux urgences parce qu'il y avait du sang qui coulait. Et ils ont dit, mais non, madame, vous êtes enceinte, donc il va falloir aller à Chartres.
Mmh.
Au même endroit, hein, il y a 20 ans. Et elle a accouché. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte.
Elle a accouché où, du coup, à Chartres ou
à Chartres. Ouais. Donc moi, je me dis qu'en 20 ans, il n'y a pas eu de progrès. Alors, c'est pour ça que je peux tout entendre. Et c'est vrai qu'ici, là, on me regarde bizarrement. Alors, c'est vrai que les gens me disent, oui, mais Miss, que ça a toujours été, c'est pour toutes les femmes pareilles. Mais justement, en fait... Je ne comprends pas comment on peut laisser ça comme ça. C'est tellement rentré dans un quotidien que même quand on regarde les programmes des politiques, ce n'est pas des sujets importants, alors que ça devrait l'être. Il y a une maison des femmes pour tout ici, c'est à Chartres, et elles accueillent que 10 femmes. Il y a une PMI à Nogent pour tout le canton. On parle de, imaginez, de milliers de personnes. Il n'y a pas de structure, donc j'ai du mal à entendre en fait vraiment de mettre des moyens pour des maisons de retraite. Oui, il faut les protéger, les personnes âgées, mais il faut protéger aussi les naissances. Il faut protéger les femmes qui donnent la vie. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est normal, en fait, tu donnes la vie. En fait. Mais en fait, on oublie ce moment-là. On oublie ça, en fait. Et je me dis, mais d'où ils viennent ? Les gens ont oublié d'où ils venaient, en fait. Ils ont oublié, ils ont l'impression d'être sortis des choux. C'est ces cigognes qui les ont amenés. Ils étaient dans le ventre de leur maman, mais ce ne serait-ce que pour leur maman, ce ne serait-ce que pour leur sœur, ce ne serait-ce que pour leur femme, ce ne serait-ce que pour leur fille, d'y réfléchir. Mais on met des moyens, et puis on est obligé de se monter en association. En fait, c'est vraiment, je comprends pas. Je comprends pas et je comprends même pas que je doive en parler. C'est surtout pour moi, ça me paraît tellement hallucinant qu'on en arrive là.
T'as rencontré des gens depuis ou pendant même des femmes, soit qui t'ont contacté sur les réseaux sociaux pour te dire que c'était cette problématique, elle l'avait connue aussi en milieu rural.
Beaucoup. C'est ça qui m'attriste le plus. Des copines d'enfance. Il y en a une qui m'a fait un témoignage incroyable, me disant qu'elle avait une hémorragie. Elle avait pleuré auprès du SAMU pour qu'il vienne la chercher. Elle était toute seule. Elle a dû insister tout de même. Ouais, j'en ai eu plein des comme ça. Celles qui doivent travailler juste derrière, faire mine de rien. Ah ouais, mais il y en a tellement. En fait, c'est surtout ça, c'est que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes à qui c'est arrivé, parce qu'il y a les fausses couches, il y a celles qui voient vraiment quand ça sort, mais il y a celles qui, comme moi, en fait, font de la rétention. Que ça reste. Et ça, c'est aussi dur, parce que tu l'as pendant longtemps. Mais oui, moi, j'en ai plein. En fait, c'est surtout que ça m'a même perturbée d'en avoir autant de témoignages.
Ouais.
Parce que Alors, tout le monde a eu des grossesses derrière, hein, c'est vrai. Et en plus de ça, je n'ai pas cette peur-là. Je sais très bien que ça va très bien se passer. Ce que je dénonce, c'est tout ce temps, tout ce process, tout ce protocole, en fait. C'est non seulement la position de la femme en milieu rural, comment on n'est pas accompagné, la reconnaissance des sages-femmes qui sont, merci, heureusement qu'elles sont là et qu'on ne reconnaît pas leur travail, alors qu'après c'est elles qui nous accouchent. Et là, quand il y a des complications, elles sont plus bonnes, elles sont plus compétentes. C'est surtout ça, en fait, que je comprends pas. Et est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir aussi des aides financières ? Pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi on paye ?
Est-ce qu'il y a des associations qui existent justement en ce sens pour développer tout ça ou...
J'en ai aucune idée, j'en ai pas eu, en tout cas ici, non.
Oui, parce que tout le monde trouve ça, enfin tout le monde, les gens te disent que c'est normal et que ça a toujours été comme ça.
Non, mais moi, et puis j'ai vraiment cette sensation, c'est vrai que vraiment j'ai eu peur de sortir après, de me confronter à la population ici, parce que j'ai un ami d'enfance qui est journaliste et qui a voulu en parler, parce qu'en plus ce qui était marrant, c'est que quand j'ai publié... Quand j'ai commencé à en parler, donc le jour même, il m'a appelé en me disant « Écoute, Miss, que c'est marrant parce que j'ai interviewé la semaine prochaine, je sors un article sur une jeune qui a en fait appelé sa maman pour l'accoucher parce qu'elle s'est dit que si elle appelait les pompiers le temps qu'ils arrivent et tout. » Donc, c'est sa maman qui l'a accouchée. Sa maman qui a accouché. Alors, l'histoire est belle hein, parce que ça s'est très bien terminé. Donc, c'est magique, le petit-fils qui a été... qu'avait sa grand-mère qui l'a sorti du ventre de sa maman. Enfin, c'est magnifique. Donc, il y avait les deux cas, en fait. Il y a dans le même journal local, il y a elle et moi. Et c'est vrai que... Non, en fait, moi, je ne vais pas te mentir que vraiment, ça me dépasse. Tout me dépasse, en fait, ici, partout. Je reste encore sans voix. Hein.
Et tu disais que tu avais peur de sortir avec la
population. Ouais, bah, excuse-moi, oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui, j'ai complètement peur de sortir. Bah, ça a été publié, donc après, tu as peur de, d'être là, celle qui parle trop, en fait, qui dénonce. Alors que les régionales viennent de passer, les départementales, tout ça, c'est cool, Miss, que tais-toi. J'ai vraiment eu ce sentiment-là de non, mais Miss, que de toute façon, c'est partout pareil, en milieu rural et tout. Bah, justement. Mais je ne peux pas rester insensible à ça. Et c'est pas grave, en fait. Et je vais rester chez moi. Ben ouais, parce que les gens te regardent plus pareil, en fait. C'est limite, ben c'est bon, t'es revenu, tu fais chier, quoi. Ouais. Arrête de parler, Misk, en fait. Sauf que je leur dis, c'est général. Là, je ne parle pas que de si, en fait. Et excusez-moi de pas être d'accord avec ça. Excusez-moi de dénoncer ce qui, pour moi, me semble injuste. Excusez-moi. Devoir s'excuser, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, ça a été terrible de... Je suis restée enfermée. Je n'avais pas mon mari. Là, je ressors vraiment avec le sourire depuis que mon mari est revenu à la maison. Parce que j'ai eu le soutien de beaucoup de monde sur les réseaux. J'ai eu le soutien de quelques potes d'enfance qui sont encore ici, mais c'est vrai que j'ai été très déçue de beaucoup de personnes. C'est parce que c'était limite, c'est bon, arrête de parler en fait.
Tu avais déjà entendu parler de fausses couches avant? Tu avais eu des récits où,
Oui, carrément. Puis j'avais vécu ça avec ma copine aussi, donc c'est vrai que oui, j'avais lu, j'en avais lu pas mal. Moi, de toute façon, de fait, de base, je ne me revendique pas féministe, mais dans ma vie, dans mon quotidien, je le suis. Donc, je suis toujours là. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup. Je prends vraiment en compte tout ce qui se passe autour de moi et même dans ma cuisine. Hein. J'appelle ça la food thérapie, mais j'essaie de faire du bien avec ma cuisine. Et c'est de faire du bien de l'intérieur, de mettre des couleurs et toutes les femmes, voilà, d'accompagner des femmes isolées, des femmes dans les quartiers, des jeunes, voilà. Donc c'est vrai que moi, c'est des sujets, j'ai toujours un regard dessus, et surtout sur la maternité, parce que bon, après, ceux qui me suivent sur les réseaux savent ce que ça représente pour moi. Camilla, c'est ma moitié. On vit toutes les deux. Ouais, je lui apprends à être une femme, de s'assumer. Et je lui ai toujours tout montré. J'ai été, depuis qu'elle a 2 ans, la séparation, j'ai été mise à la rue. J'avais rien. Son père m'a, j'avais rien. Je me suis battue. On a beaucoup bougé d'endroits. Et je lui ai toujours dit, t'inquiète pas, on est toutes les deux, c'est le principal. Il n'aura rien. Donc oui, moi, toutes ces problématiques, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Donc, mais je ne pensais pas que ça allait m'arriver, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Il y a plusieurs étapes. Tu interromps une grossesse par choix. Tu poursuis une grossesse. Tu vas jusqu'au bout. Et on t'enlève ton bébé. Voilà. Si tu le perds. Mmh. C'est complètement différent. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et moi, c'est vrai qu'à travers tous ces retours, tous ces témoignages, tu te rends compte que finalement, les femmes passent par toutes ces étapes-là, mais n'en parlent pas. On garde pour nous des femmes fortes. J'en ai marre, en fait, de ça. Parce que non, on n'est pas que fortes. C'est pour ça que tout le temps, on me dit « Mais t'es tellement forte, t'es battante. » Je pleure souvent. Je pleure, je rigole, je vis, je suis une vivante. Et donc là, je ne peux pas laisser ça passer. Et je parle à toutes ces politiques, même si les femmes. Moi, en fait, c'est aussi ça, les Marlène Schiappa et toutes ces femmes, les Rachida Dati, mais les filles, en fait. Alors, je sais que vous avez plein de sujets à traiter, mais si vous voulez qu'il y ait plus de naissances que de mortalité infantile, il y a des choses à faire, il y a du taf, hein. Alors, je veux bien tout ce qui se passe, mettre de l'argent, l'armée. Il y a de l'argent. Quand il y a besoin, il y en a des moyens. Et qu'ici, en 20 ans, on ne peut pas me dire que c'est des déserts médicaux. Ça, on en parle depuis moins de 20 ans. Donc, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a d'autres problèmes derrière. Peut-être les conditions qu'on leur donne aussi aux médecins. C'est peut-être même déjà en fac de médecine qu'il y a un problème. Je ne sais pas. Enfin, essayons de comprendre. Et je me disais, tu vois, il y a plein de solutions. Je ne sais pas. Moi, je suis pas sortie de l'ENA. Je sais pas, mais toutes ces sages-femmes qui sont à la retraite, est-ce qu'on les sollicite pour savoir si elles veulent bien être bénévoles pour faire des accompagnements? On ne leur demande pas. Enfin, je ne sais pas. Moi, il y a plein de solutions, en fait. On peut en trouver des solutions. On peut faire des tickets, des petits taxis roses. Je ne sais pas, moi. Il y a plein de choses à faire. Il y a bien une maison des femmes à Saint-Denis. Parce que moi, je parle de ça, là, ce cas précis qui m'est arrivé. Mais parle des femmes musulmanes. Alors là, tout de suite, ça va en faire un truc. Mais c'est vrai, elles ne peuvent pas tout dire. Elles, pour le coup, sont vraiment toutes seules. Hein, parce que quand elles doivent avorter, après, quand elles font des délits et qu'elles doivent avorter, que c'est trop tard, elles partent en Belgique, partout. Mais il y a des réseaux, hein. Donc, et puis, les migrants, tout ça. Enfin bon, tout le temps, en fait, je pense qu'il y a un réel taf. Et que quand tu viens de Paris, parce que voilà, j'ai vécu les deux, hein, c'est pas pareil. Donc, on peut me parler des galères à Paris. Je les ai vécues déjà. J'ai déjà eu un appartement. Ok. Je sais très bien le regard du médecin qui t'accueille, qui est peut-être un petit peu cateau. C'est pas bien l'avortement. Puis, on te laisse 10 jours. Tu vas bien réfléchir. Mais en attendant, t'as plein d'assauts. T'as plein de PMI. Si t'as pas un rendez-vous là, tu peux aller à l'autre. C'est pas sectorisé. C'est bon. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et t'as pas autant de trajets. Tu prends le métro, c'est différent. Puis tu peux gruger le métro, tu peux prendre le taxi. Enfin bon, c'est pas pareil.
C'est plus rapide, quoi.
C'est beaucoup plus rapide.
Et alors aujourd'hui, là, donc toi, tout ça, ça t'est arrivé il y a pas si longtemps. Comment tu te sens ?
Alors, depuis qu'il est parti, réellement, je me sens libérée, fatiguée, parce que ça a été long. J'ai mis 3 jours, quand Lucas est revenu à la maison, je crois qu'on a dormi 3 jours, parce que... Alors, moi, j'ai un mari qui vraiment l'a vécu, hein, même s'il était loin. Et donc, il est tombé en même temps que moi. Il est rentré à la maison et il est tombé, hein. J'en pleurais là parce que j'ai envie de pleurer parce que vraiment c'était tellement beau à voir. C'est vrai que quand j'étais pas toute seule. Donc on a dormi beaucoup. On a fait vraiment, on s'est fait plaisir. On a dormi, câlinou. C'est hyper important de se sentir épaulé. Et bien là, je me sens, écoute, je me relève depuis aujourd'hui. Hein. Donc ça fait une semaine que Nadji est partie. On va dire qu'aujourd'hui, je commence à aller beaucoup mieux. Je garde le sourire parce que c'est hyper important de sourire à la vie. Je pleure avec le smile parce que je ne veux pas que ce sentiment de tristesse soit trop présent dans moi et que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours souri à la vie, en fait. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je suis contente d'en parler. Ça m'aide aussi beaucoup, hein. Ouais. J'ai assumé, donc ça, c'est cool. J'ai eu beaucoup de retours et c'est vrai qu'on se sent moins seul. Et c'est que j'ai envie de dire aux femmes que si elles n'ont pas la possibilité d'en parler, pour le coup, les réseaux sociaux, en tout cas, sont plutôt cool. C'est accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a plein de groupes, des femmes. Voilà, on se sent un peu moins seul.
Et tu en as parlé à ta fille, du coup, comment
Alors oui. Oui, j'en ai parlé à Camilla. Elle partait chez son papa donc, pendant 3 semaines. Donc, j'ai réussi à trouver le temps de lui en parler. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué que bah, ça arrivait, ça pouvait malheureusement arriver, que c'était pas le moment pour Nadji, qu'il a préféré partir dans le ciel avec la mamie, parce que bah, ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère, on va souvent au cimetière, parce qu'elle a demandé à être enterrée ici, donc c'est vrai que ça a été l'image pour elle, parce qu'elle en... Elle va souvent au cimetière avec moi, elle fait des prières, elle met l'encens et tout. Donc, j'ai pris ça pour lui dire que Nadji était parti rejoindre la mamie dans le ciel et qu'il était bien là, il était bien, il préférait, que c'était pas le moment pour lui, que maman, elle est triste, que Lucas est triste, mais qu'on va faire des belles choses pour lui. Et elle m'a dit, mais tu sais, maman, moi, je vais lui faire un dessin. Je vais lui faire un mandala. On va mettre l'encens, on va faire la prière. C'était tellement mignon. Et en fait, elle m'a fait du... J'en ai pleuré devant elle. Je lui ai dit, je suis désolée, c'est tellement beau ce que tu me dis que je suis maman, elle pleure, mais c'était tellement émouvant. Et donc là, j'attends qu'elle revienne. Elle revient lundi et on va planter un arbre pour Nadji. qu'elle l'arrosera et qu'elle verra grandir. Voilà, donc ce sera notre symbolique. Mais ouais, c'était ça. Je savais pas au début comment lui en parler, et puis je me suis dit que de toute façon, si je le pensais trop, je le mentalisais trop, j'allais bégayer, ça allait pas sortir, ça allait pas être juste. On va le faire ensemble.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça m'a donné de la force, beaucoup de force. En fait, vraiment, avec Camilla, je suis indestructible. Je serai jamais seule, jamais. Voilà, moi, c'est vraiment, c'est le prolongement de soi, hein. C'est la continuité. Donc, je me sens pas seule. Je me sens beaucoup plus forte. J'ai donné la vie. Il nous arrive tout plein de choses à nous, les femmes. On doit se battre tout le temps. Ces 9 mois qui sont beaux ou pas beaux, terribles, fatigants. On accouche, c'est un marathon. On n'allaite pas. On nous juge si on n'allaite pas. On nous fait trop d'histoires. Mais la finalité là-dedans, c'est qu'on a donné, on donne la vie. Ou pas. Si on ne le veut pas, c'est assumé et c'est très bien. Moi, j'en ai plein de potes et c'est très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai donné la vie. Et pour moi, c'est ma plus grande force.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman percheronne ?
Une maman percheronne. Alors, la nature, une maman moins stressée. C'est pas le même cadre de vie, hein. Une maman comme moi, j'adore les mamans dans la cuisine, une maman qui travaille. Une maman qui a son potager, une maman qui retrouve ses copines, une maman épanouie. Malgré tous ces fléaux, il y a la nature.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré dans le Perche ?
On va dire que c'est ma petite forêt du Bois Joli. C'est kids-friendly, parce que c'est zen. Sinon, dans la forêt de Bellem, elle est vraiment kids-friendly. Parce qu'il y a plein d'espaces, tu peux faire du vélo, faire la cueillette de champignons, tu as des tables de pique-nique, c'est magnifique, il y a plein de variétés d'arbres incroyables.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Rien que pour moi, alors un tiers-lieu pour les professionnels, les artistes de la culture, justement pour parler de bien-être, de sérénité, de créativité, sans obligation de résultat. Un espace où on se retrouve, on se reconnecte. Au niveau de la famille, c'est de l'agrandir. Ça, c'est notre projet. À tous les trois avec Camilla.
Merci beaucoup, Misk.
Merci à toi, Chad. Franchement, merci.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.